L'histoire initiale, il n'était pas là, Saint-Jean n'était pas là, il était un peu plus haut là-bas, au carrefour. Là. C'était le Saint-Jean initial. Le Saint-Jean initial, et puis vers 1604, on a transporté l'église vers 1604. Une nouvelle église qui s'est mise là. Donc on a le centre, c'est un peu déplacé. Ouais. Le cimetière, donc on a mis le cimetière et tout ça. Mais tout ça, c'est resté en place jusqu'en 1938-39, c'était un petit village à ce moment-là.
Le lieu d'ailleurs, en 1870, a connu sa pointe de population, il y avait 1870 habitants. Vous voyez ? Alors que, après, rapidement, comme le moulin s'est arrêté, la briqueterie, c'est la même chose. On a connu et on est descendu autour de 1000 habitants. Et il y avait. Les ressources étaient limitées, il y avait le foncier et il y avait l'activité du commerce local, mais qui était quand même relativement réduit. Quoi, hein. Et Saint-Jean en plus était desservi puisque la route Saint-Malo-Rennes passait par le cœur du bourg de Saint-Jean. Donc il y avait, vous voyez, les ronds-points, la circulation, et vous imaginez tout le trafic, il n'y a pas de quatre voies. Donc il y a eu une évolution très très importante de la commune, que j'ai connue personnellement, puisque j'ai connu le traçage de la quatre voies et cette évolution.
Il y a tout plein de commerces à Saint-Jean.
Ouais. Ah, ouais.
Dans le centre. On avait un marchand de jouets, on avait deux épiceries, on avait un bourrelier, on avait
des vêtements.
Oui. C'était même le bourg, là. Les vêtements, on avait coiffeur, on avait...
Dans le temps, c'était par quartier. Moi, je n'ai jamais connu, effectivement, le coin Moulin-Quinard. Mm-hmm. On ne s'occupait pas de ce coin-là. Ouais. Nous, on était donc la maison à la grève, et on s'occupait plus sur l'autre côté. Laurent Arzic, François Cabriac, enfin, tous ceux qui étaient sur l'autre côté.
Ça n'existait peut-être pas le chemin de ronde qu'il y a maintenant.
Il fallait faire tout le tour pour descendre.
Ou alors on montait par les tertes.
C'était surtout un village agricole en fait. Là. Il faisait des primaires, il faisait des chou-fleurs, des artichauts. Beaucoup d'artichauts, maintenant c'est fini. Dans les années 40, là, je parle dans les années 40-50, des artichauts, beaucoup d'artichauts, des chou-fleurs. Des pommes de terre, et ramasser aussi le gui.
Ouais.
Le gui, à Noël, il y avait des sorties de gui qui partaient pour l'Angleterre. Et on ramassait le gui dans les pommiers. Moi, je vois encore, dans les pommiers du bord, là, chez Gauger, on ramassait le gui. Le gui, on les mettait en cajou bien serré, et puis ça partait en Angleterre au moment de Noël, là.
Ouais.
Noël premier de l'an. Et puis, il y avait aussi beaucoup de pommiers. Ouais. Ah oui, ça, c'était des fermes. Hein, maintenant, il n'y a plus de fermes. Il y en avait 17 ou 20 de fermes à ce moment-là. Hein. C'était des petites fermes. Hein. Ouais. Et tout le monde avait son psy, tout le monde avait ses pommes, avait ses oies, c'est tout. Hein. C'était vraiment une vie de campagne. Et tout ça, ça a basculé dans les années 70. Ça a commencé quand les premiers tracteurs sont arrivés.
La Chine.
Premier tracteur, non, mais c'est important ça.
Ouais.
La date des premiers tracteurs dans le coin, c'est quand même important. Hein. Et des chevaux, il y en avait encore, moi, dans les années 70, il y avait encore à Saint-Père, il y avait encore un cultivateur qui travaillait avec ses chevaux.
Okay.
Je le vois encore sur la route de Saint-Père avec ses chevaux. C'est le dernier du coin que je connaissais.
Sur notre région, la culture, c'était... Il y avait trois sortes de cultures. Il y avait la primeur, qui était l'emblème de la région, les céréales et l'élevage. Voilà, on tiercait à peu près au niveau des surfaces d'exploitation agricole. Voilà. Déjà, comme je vous disais, je suis né au bord de l'eau, là, au Moulin de Quinard. Et tous les champs qui vont depuis le Moulin de Quinard jusqu'à sur la pente du Valion, mes parents étaient agriculteurs et mes grands-parents aussi, et mon arrière-grand-père aussi, donc disposaient des terres donc, sur les coteaux, cultivaient des primeurs. Donc, tout petit, j'allais garder les vaches en champ. À l'époque-là, voilà, on était là. Et vous savez, on ramassait les choses, mais soigneusement. On invitait nos petits copains et copines à venir nous rejoindre parce qu'on s'ennuyait tout seul à garder le troupeau, les bétails. Et on se disait, ben, s'ils peuvent venir, voilà, c'était la jeunesse, on jouait. Mais on jouait avec un respect de l'environnement. Là, tout sur le Vallion, là, il y avait des beaux arbres, des beaux aubépines, quand c'était en fleurs, mais c'était magnifique. Et là, la nature était complètement respectée. Et on allait, bien sûr, cueillir les récoltes. On travaillait, mais même manuellement. Moi, j'ai conduit les chevaux, parce que là, on ne pouvait aller qu'avec des chevaux ou à pied, faire les pommes de terre, les ensemencer. On avait juste dans la pointe, la hauteur maximum. Il y avait très peu de terre, mais c'était une terre qui se réchauffait très vite. Donc, dès le mois de février, par exemple, on allait faire les premières pommes de terre. Moi, j'étais tout jeune, j'allais aider. Je vais vous raconter une petite anecdote. Elle est toute simple. Et ma maman, moi, je suis né le 29 novembre. Et ma maman allait semer des pommes de terre au mois de février dans le Vallion. Et moi, j'étais dans le landau et elle s'arrêtait de semer, de travailler pour m'allaiter. Vous voyez, voilà l'histoire. Alors, après, quand on vous dit ça, mais on dit c'est pas vrai, j'avais 3 mois, j'étais dans le bout du champ et voilà, maman elle travaillait, moi j'étais là, et comme quoi c'est en plein milieu de la nature et c'était au mois de février.
C'était sauvage, complètement sauvage. Ouais. Il y avait que la maison, effectivement. Et la maison, elle a été refaite parce que c'était un hangar pour faire sécher les briques.
Ah ouais.
Et il y a le four à briques qui, nous, on appelle ça la tour. Et c'est la tour qui, effectivement, cuisait les briques. Et dans la maison, ils mettaient, c'était au 4 vents, ouais. Et ils mettaient les briques à sécher.
C'était une briqueterie locale en bois. Et il y avait une briqueterie également en haut de Saint-Jean.
D'accord.
La grosse briqueterie qui était à côté d'une. À ce moment-là, il y avait un aéroport, un aérodrome.
D'accord. Donc la fabrication des briques, c'était quelque chose du coin. C'était une industrie locale.
Oui, c'était une industrie locale.
Ok.
Mais une grosse. Enfin, c'est une grosse briqueterie. Hein. Ça a duré. Je crois que la cheminée de la briqueterie, je crois qu'elle a été abattue dans les années 40 par les Allemands. Il y a un problème à ce moment-là.
D'accord.
C'est cheminé là.
En 1870, si vous voulez, il y avait deux pôles économiques forts. Le moulin, la minoterie ici de Quinard, et la briqueterie de Blanche-Roche, mais qui n'existe plus. C'est là où est placée la Technopole, qui à ce moment-là, elle, était une briqueterie et elle a été anéantie quand on a fait un aérodrome pour... 1939, puisqu'il y avait la guerre, et c'est le ministre Guy Lachambe, ancien maire de Saint-Malo, qui a fait cet aéroport.
Le plaisir étant jeune, c'était de descendre au Vallion, et il y a aussi plus loin ce que l'on appelle le Vallée-Bouilly, qui fait partie de Saint-Jean aussi, et lorsque nous allions dans ces grèves-là, c'était un plaisir fou parce que nous avions la pêche. Et la pêche, c'était formidable parce que...
T'allais en Doris
Non, on allait en Doris. Oui, mais pas toujours. Ouais. À pied aussi, on pouvait faire la pêche.
Mais papa, il disait toujours qu'il ramassait plein de...
Ah ben, il y avait...
La pêche, papa, régulièrement.
La pêche en bateau aussi.
Oui, ouais, en Doris. Et il ramassait beaucoup de choses, hein, beaucoup de crabes, oui. des araignées, oui. Il ramassait des coquilles Saint-Jacques.
On a ramassé à pied aussi, mais alors pas sur la grève du Vallion, un peu plus loin.
Mais ça, c'était avant le barrage. Hein,
avant le barrage. Oui, c'est le barrage qui a tout détruit. Non, il n'y a plus rien. Mais dans ce temps-là, c'était formidable parce qu'on avait la pêche sur place et on avait le droit de faire du feu.
Des anguilles aussi, je me souviens.
Oui, on emportait un fétu et puis on fusait sur place d'autres, ce que nous avions pêché.
Qu'est-ce qu'il y avait sur la grève? Que des pêcheurs, des Doris.
Ouais.
Il y avait 4-5 Doris. Ils partaient avec marée descendante pour aller à la pêche parce qu'ils ne voulaient pas trop... à l'aviron, c'était à l'aviron.
Ouais.
Donc ils profitaient de la mer, comme ça les courants étaient en descente avec eux. Ouais. Et ils remontaient avec marée montante. Mais c'était même pas la plage de montant, la plage principale, c'était Valet Bouilly.
Oui, d'accord.
Parce que le Valet Bouilly, effectivement, la mer descend beaucoup moins vite.
Ouais.
Donc les gens, gens préféraient le Valet Bouilly. Mmh. Et c'est depuis qu'ils ont mis le sable et puis qu'il y a effectivement la digue là que...
Saint-Jouan a une particularité, trois îles, trois moulins. Mmh. Alors, trois moulins, on en voit deux ici. Le premier moulin, la minoterie. Là, vous voyez, il y a le moulin d'une Maine, et il y en a un autre que vous ne montrez pas, mais qui est plus haut, qui est au niveau du Valet Bouilly, c'est le moulin de Champfleury. C'était un moulin qui servait de, on appelle maintenant les phares et balises, vous savez, pour faire la navigation. Et donc, ce moulin-là servait justement pour la navigation en mer, parce qu'il était sur une pointe au niveau de la falaise du Valet Bouilly. Et il y avait trois îles. Donc, l'île Artaud et Notre-Dame, enfin, l'île aux moines, mais Notre-Dame, c'est la même chose, et l'île Chevret, qui est justement la passagère. Les îles, il faut savoir que l'île Artaud a été une île qui a été cultivée à une certaine époque. On avait un petit passage, un chenal, qui était. On pouvait aller à marée basse jusqu'à là, et. Voilà, on y faisait quelques cultures. Oh, c'était pas une terre, c'était beaucoup de rocailles.
L'animation, ça fait, il y avait de l'animation parce qu'il y avait, on avait une clique jusqu'à dans les années 70, on avait une clique et puis des majorettes.
Oh ouais.
Mais les majorettes, ça marchait. Enfin, c'était une époque. Mmh, une époque, mais ça marchait très bien. Et les cliques, et la clique, les cliques, les majorettes, hein. Les majorettes, ça, ils ont. Ça animait beaucoup, ça faisait beaucoup d'animation. Hein, et puis tous les jeunes, ça occupait les jeunes. Avec la clique, entre la clique, ça. Hein, et puis il y avait un club de foot aussi qui se. Il y avait du foot qui se passait derrière. À côté du Merlon, là, par exemple. Il y avait le stade qui était là. On avait les garçons, c'était la clique.
D'accord.
La musique.
Ouais, la fanfare. Quoi.
Oui, la fanfare.
Dans le sud, on dit la banda.
La fanfare et tout ça, ça s'entraînait à côté des presbytères. Hein.
Ok.
Vous voyez que les filles, à Saint-Jouan, quand je suis arrivée, ça me choquait un petit peu parce que les filles, ben, elles ne sortaient pas, elles étaient là, allées à droite, à gauche, comme tous les jeunes. Et puis bon. Et je me suis dit, avec une cousine, Mme Léon, justement, la femme. Du monsieur qui menait la fanfare. On se dit toutes les deux, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour les filles. Et nous avons créé, à cette période, donc, les majorettes de Saint-Jouan. Alors, qui ont eu du succès, il faut dire ce qu'il y a. Ça a duré un certain temps, parce que les jeunes, au bout d'un certain temps, quand elles grandissaient, elles n'étaient plus en peine de montrer leurs cuisses, sans doute. Enfin, vous savez, que les jeunes changent, bien sûr. Et de ce fait, elles ont créé, alors elles-mêmes, un groupe de danse folklorique, si on peut dire. C'est pas, enfin non, un groupe de danse, mais où on incorporait toujours les majorettes. Alors c'est on inventait une scène quelconque, une histoire quelconque, et dans cette histoire, alors, il y avait toujours des danses de majorettes, de manière à ne pas lâcher tout de suite. Alors nous avons fait les majorettes, après les twirling danse, et les twirling danse, après donc ça s'est terminé, ça a duré 24 ans quand même. Hein. Et les hommes... Là, il y avait la fanfare, soit tambour, soit clairon, soit enfin, comme toutes les fanfares. Hein. Et voilà, donc de sorte, mon mari faisait partie de la fanfare. Moi, étant donné que je gérais avec ma cousine les majorettes, et les enfants qui le suivaient, nous sortions en définitif
en quart,
tous les cinq, puisque j'ai trois filles. Et voilà. En quart, tous les, à peu près, oh, pas tous les 8 jours, mais quand même assez souvent.
Ouais.
Et nous avons eu de nombreux prix. C'est vrai que ça a très bien marché.
C'était à l'intérieur de l'église, il y a Notre-Dame de la Délivrance. Et les marins, avant de partir en mer, pour 9 mois souvent, venaient faire une prière, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ex-voto, pour se faire protéger, en quelque sorte, des périls en mer. Et on y venait à pied, voire pieds nus, de toutes les paroisses, puisque ce n'était pas encore les communes, mais les paroisses environnantes, y compris les communes qu'on dit Saint-Suliac, Saint-Père, Saint-Méloire, tout le monde. On y venait à pied et on faisait une dévotion à la Vierge. Et il y a d'ailleurs tous les ex-voto qui sont dans l'église démontrent l'importance de ça. Au Moyen-Âge, il y a eu jusqu'à des rassemblements de plus de 4000 personnes à Saint-Jean. Eh bien, avant le barrage de la Rance, le moulin était entouré d'eau. Et donc, pour justement nettoyer la Rance, on allait avec mes parents, mon papa, on ramassait tous les déchets que la Rance transportait, et entre autres du Gaulmont, qu'on remettait sur la terre. Vous voyez qu'on était déjà précurseurs de l'environnement il y a très longtemps.
C'est le barrage, hein ?
C'est le barrage.
Ah oui, c'est le barrage. Le barrage, c'est 60, hein ? Ouais, 60-61. Okay. Donc, il faut 10 ans, 15 ans pour... Donc ça se met en place, hein.
Ouais.
Hein, et puis on commence à voir des trucs vers les années 80, 90, hein, on commençait à voir déjà l'ensemblement, mais c'est un peu normal, hein, vu le... parce que la Rance, c'est plein, quand il n'y avait pas le barrage, la mer montait, elle attendait une heure, et puis elle descendait.
Ouais.
Donc toutes les saletés et tout ça, ça n'avait pas le temps de se déposer, ça sortait.
Ouais.
Hein, à partir du moment où il y a le barrage, d'abord le barrage il a gêné, ensuite on attend 6 heures avant de rouvrir.
Ouais.
Donc toutes les saletés ont le temps de se reposer, et puis ça s'accumule comme ça. Hein.
Mm.
Hein, c'est ça la grosse différence. Hein. Alors tous les cul-de-sac, ils n'ont plus l'énergie pour évacuer.
Ouais. Il n'y avait rien, personne. On était vraiment seul, nous. Hein. Dans notre jeunesse, il n'y avait rien. Hein. Je vous dis, hein, d'abord, la route à descendre n'existait pas. C'était de la caillasse. On montait avec nos sabots et puis on laissait nos sabots à la distilleuse. On prenait nos belles chaussures parce que le goudron arrêtait là. On prenait nos chaussures pour aller à Saint-Jean. Mm. Mais il n'y avait rien. C'était que des champs. Hein.
Mm.
Que des champs partout. D'abord, quand il y avait une voiture qui arrivait, on se demandait qu'est-ce qu'elle venait faire là. Oh, on n'était pas fiers quand on voyait la voiture. Oh, combien de fois que je me suis cachée sous les escaliers. J'ai dit, oh là là là.
Il fallait passer par-dessus les rochers, puis quand on est jeune, on est emballé justement de passer par-dessus les rochers, de redescendre de l'autre côté, et puis recommencer, retrouver une autre plage, et voilà, de grève, parce que c'était pas la plage, c'était la grève.
Mais il n'y avait pas de sable à cette époque-là. Hein.
Oui.
On avait la pétrelle. Moi, parce que quand maman travaillait, ma grand-mère qui habitait à côté, on descendait donc à Quinard et on avait une grande couverture qu'on mettait sur la pétrelle.
Oui.
La pétrelle, c'était les heures de grève. Et puis...
C'était sauvage, il n'y avait rien. D'abord, déjà, il n'y avait pas la digue. La digue n'existait pas. Donc nous, pour effectivement aller de Saint-Jouan à venir jusque la maison, on avait des haltes.
Ouais,
on avait déjà une première halte en haut de la côte, parce qu'on changeait nos chaussures.
Ouais.
Pour descendre, c'était que des cailloux.
Oui.
Donc et après, effectivement, c'était la grève. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien, c'était la grève. Donc on passait par la grève, les 3/4 du temps, comme on avait le cheval, on prenait la charrette, et puis papa et maman nous faisaient passer... parce que la mer était haute ou basse, ça dépendait. Alors quand on arrivait de l'école, c'était toujours la grande question, comment est-ce qu'on va rentrer à la maison ? Est-ce que c'est par les champs ou est-ce que c'est par la grève ?
Chemin souterrain, si je puis dire. des chemins, bon, chemins comme ça, quoi. Et alors, dedans, on s'enfilait dedans, c'était, disons, de la boue. Hein, c'était, et donc,
la vase.
La vase, la vase, exactement, t'as raison. C'était de la vase, et nous allions de là, justement, de la Rance, ici, à Saint-Jean, sur Saint-Suillac, à pied, à travers. Là, par contre, ce qu'il fallait faire très attention, c'est aussitôt que la mer commençait à monter, il n'y avait pas intérêt à rester deux minutes de plus. Hein. Il fallait vite, vite, vite partir et rejoindre. Autrement, on se serait fait. C'était pas possible. Et alors, on allait donc, il y a un banc de sable, et je ne sais pas si c'est, ça ne doit plus exister maintenant avec la Rance, mais c'était formidable. On passait sur Saint-Suillac, à la pointe du Puy. Si vous avez entendu parler de la pointe du Puy à Saint-Suillac, on passait, il y avait un banc de sable et nous allions ramasser des coquilles.
Il n'y avait rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien au départ, maman.
C'était une grève, comme toutes les grèves, le port de Rance, oui. Ou ailleurs, c'est pareil. Voilà, on ne pouvait descendre vers l'eau qu'en marchant dans la boue, dans la vase.
D'accord.
Autrement, il y avait pas du tout.
Il y avait pas de chemin, il y avait rien au départ, il y avait rien.
Non.
Nous, on a connu ça, il y avait rien.
Moi, descendais en bas ici, chercher des salicornes pour manger. Les gens se baignaient malgré tout, un peu dans la vase.
Dans la vase.
C'est qu'il n'y avait pas autre chose, donc les gens arrivaient à se baigner quand même.
Quand vous descendez au Valion et que vous allez tout au bout sur votre droite, il y avait des jardins.
Ah.
Il y avait des petits jardins, mais c'était des petits carrés qui n'étaient pas plus grands que ça. Il y en avait 5-6, je ne me rappelle plus exactement.
Qui étaient légèrement en pente.
Qui étaient légèrement en pente. Et les gens cultivaient leur jardin là.
Au-dessus de la Rance.
Au-dessus de la Rance. Mais là, la Rance monte tellement qu'il n'y a plus rien.
Je crois qu'il n'y a pas qu'à Saint-Jean. Hein. Je pense que c'est tout le long de la Rance.
Oui. Hein.
C'est Francis Gauger qui a inauguré la première fois le sable à Saint-Jean. Il a fait apporter tout ce sable-là à Saint-Jean. Ça lui a permis de faire maintenant ce qu'on appelle une plage. En définitive, c'est une grève améliorée. Quoi.
Moi, j'ai connu le Valion, il n'y avait pas un mètre de sable, il n'y avait rien.
Bien sûr.
Et le Valion, les gens d'ailleurs préféraient descendre à Quinard plutôt que d'aller au Valion.
Oui, on nous l'a dit.
Pourquoi on ne développe pas quelque chose au Valion? Et alors, pour les bateaux, on y a mis le ponton pour éviter, parce qu'il y avait une longueur, quand la mer était retirée, c'était difficile, et c'était que de la vase. Alors, à ce moment-là, on a dit, eh bien, on va faire un bateau. Mais, moi j'avais le souci, et ça me préoccupait, de toutes ces familles de Saint-Jean, qui avaient des jeunes enfants, et il y avait une démographie qui évoluait rapidement. Ils n'avaient pas les moyens d'aller à Saint-Malo, dans les embouteillages de Saint-Malo, alors qu'on avait quelque chose qui était formidablement bien placé à Saint-Jean. Et c'est comme ça qu'on a commencé à amener. Bon, c'est avec une barque que c'était un sablier qui venait et qui déposait avec sa barque le sable qu'il allait prendre en eau profonde. Mais on avait fait un petit coin. Mais alors, ça avait eu un succès formidable. Et à ce moment-là, un jour, une entreprise de Saint-Jean faisait des travaux sur Saint-Malo. Et il me dit, j'ai des mètres cubes et des mètres cubes de sable. Faut que je les enlève. Je vais les jeter quelque part et je cherche où les mettre. Mais je dis, mais il ne faut pas les jeter. Moi, j'ai où les valoriser. Et c'est à ce moment-là qu'on a amené le sable au Valion. On a fait de l'enrochement, on a acheté des terrains qui ont été assez difficiles d'ailleurs pour pouvoir faire un terre-plein sur le Valion, parce qu'on ne pouvait pas empiéter sur le domaine public maritime. Mmh. Et on a déposé du sable à ce moment-là, depuis le ponton. Mmh. Alors, il restait pas, on avait du mal à aller parce qu'il y a un marnage beaucoup plus fort qu'il n'y a justement à Quinard. À Quinard, il n'y a pas de marnage. Et à ce moment-là, il y a un prêtre à l'époque, qui s'appelait l'abbé d'Auvergne, il avait eu en même temps, on avait discuté en conseil paroissial, la riche idée de dire, bien, on ne va plus faire les kermesses au presbytère, puisqu'on n'avait plus d'espace de terrain, on va aller les faire au Vallion. C'est comme ça que l'animation, alors les enfants, les écoles, tout ça sont allés, et puis il y avait une kermesse, mais qui était une grande fête, vraiment renommée et connue, loin à la ronde, et donc il y avait un public très nombreux. Bon, ça a duré plusieurs années, mais c'était très très lourd à gérer, à organiser, et il faut beaucoup de bénévolat, et puis comme dans toute évolution, ben, voilà, l'animateur principal s'en allant, les choses ont évolué différemment. Et après, la kermesse a été transférée, on a fait...
Tout ça, il n'y avait pas une maison. Hein.
Ouais.
C'était des pâtures. Des pâtures, mais c'est bien très bien. Hein. Et on faisait les kermesses, là.
Ok.
On faisait les kermesses, là.
C'était une fois par an, en plus.
Hmm.
Les kermesses, c'était une fois par an ou
une fois par an, c'était dans les années 68, par là. Hein, et ça se faisait en bois, dans les contre-bois, dans les dernières maisons. La dernière, entre la dernière maison et l'avant-dernière. Hein. Et dans les années 70 encore, il y avait une procession là.
D'accord.
Une procession là, et après, il y avait la kermesse au bois, là, dans le... Au bas, dans les... C'était la fontaine des Charis, là.
D'accord, ok.
Et puis en tant que maire aussi, je trouvais que la Rance était un endroit magnifique. Et quand je suis arrivé maire, j'ai souhaité pouvoir tirer le feu d'artifice du 14 juillet au Vallion. Alors, c'était un gros travail lourd. On avait fait venir une barque à peu près à l'endroit où on voit le bateau. Hein, ça se situe comme ça à peu près. Et on tirait sur une grande barge le feu d'artifice. Alors je peux vous dire que la population de Saint-Jean, mais même l'environnement, tirait ça sur l'eau comme ça. Et on voyait ça au fil de l'eau. C'était magnifique. Sauf qu'avec le temps, là aussi, il y avait des questions de sécurité.
Merci.
Parce qu'on n'a pas de recul sur une barge. Et quand il faut faire exploser les feux d'artifice, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se loupe, parce que sinon c'est la dangerosité.